Bonjour. La colère des agriculteurs, si on ouvre les journaux ce matin, eh bien elle est partout.
Des files de tracteurs bloquent l'autoroute près de Toulouse. On les voit en première page du Figaro qui titre « La colère monte en France et en Europe ». Et on les voit en une de Libération qui évoque le ras-le-bol agricole. Le Parisien souligne la crainte de l'embrasement qui tient lieu de premier test pour Gabriel Attal à Matignon. Comment répondre au malaise paysan, interroge La Croix, dont l'éditorialiste résume. Les agriculteurs mettent en avant les coûts qui s'envolent et les normes qui s'empilent. L'Opinion explique que la réponse à cette crise se situe un peu à Paris et beaucoup à Bruxelles, car l'Union européenne planifie la baisse de la production agricole au nom de règles environnementales, tout en tolérant l'importation de produits qui en sont dispensés.
Dans les Échos, une étude scientifique démontre que non seulement l'hydroxychloroquine était inefficace contre le Covid, mais qu'elle a sans doute tué des malades.
C'était le fameux traitement prôné par le professeur Didier Raoult. Des chercheurs lyonnais ont compilé les données publiques sur son administration durant la première vague du Covid dans 6 pays, dont la France. Leur conclusion est que 17 000 patients seraient morts des suites de leur traitement avec cette molécule controversée. Écrivent les Échos. En France, l'hydroxychloroquine aurait tué entre 115 et 293 personnes, soit 1% des décès liés au Covid, ce qui n'est pas rien. Le quotidien économique rappelle que dès 2021, une analyse publiée dans Nature, la prestigieuse revue scientifique, alertait sur l'usage de ce médicament contre le Covid, mais qu'elle était passée presque inaperçue dans le brouhaha complotiste persistant à défendre la potion du professeur marseillais. Pour les personnes touchées par le virus, l'hydroxychloroquine n'était donc pas un médicament, mais un poison.
Une surprise à la lecture du Parisien ce matin, Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture, est populaire, notamment dans les rangs de la France insoumise.
Et oui, à lire cet article, on mesure que le dépassement des clivages tels que le rêve Emmanuel Macron justifiait bien, ou du moins explique, le choix de nommer l'ex-ministre sarkozyste dans le gouvernement de Gabriel Attal. Dati, c'est loin d'être la pire, confie un député LFI. Elle emmerde tout le monde, donc on la trouve sympathique. C'est ce qu'on appelle une convergence sur le fond. Son parcours, son bagout et sa combativité suscitent l'admiration des Mélenchonistes. Le Parisien rappelle qu'en 2022, Rachida Dati avait reçu un accueil de star à l'université d'été de LFI, enchaînant les selfies et les punchlines. « Je ne suis pas aux ordres, moi aussi je suis insoumise », lançait-elle sous les applaudissements. L'Opinion signale que la même Rachida Dati présidera ce soir un dîner ultra chic au château de Versailles avec les plus grands mécènes pour les 400 ans du palais. On peut supposer qu'aucun insoumis n'est invité, à part la ministre donc.
La ministre de la Culture, toujours elle, apporte son soutien à l'écrivain Sylvain Tesson, dont la désignation comme parrain du Printemps des Poètes est contestée dans une pétition.
C'est la nouvelle polémique de la semaine, c'est-à-dire une bataille de mots qui a peu de sens, mais qui fait du bruit. La pétition a été lancée jeudi et publiée ce matin dans Libération. Elle est signée par des acteurs et actrices de la scène culturelle, moins connus que Sylvain Tesson, il faut le dire, et elle proclame que faire de lui le parrain du Printemps des Poètes reviendrait à banaliser l'extrême droite. C'est peu dire que le texte est pauvre d'arguments pour justifier une telle accusation. Dans le Figaro, l'écrivain Patrice Jean réplique aux pétitionnaires et dénonce un lynchage stupide. « On reste abasourdi face à ce qui ressemble à une folie », écrit-il. « Tesson n'est pas un politique, il n'a pas tripoté de fesses interdites ni tué personne. Il écrit des livres. Les auteurs de cette tribune ont repeint un écrivain avec leurs angoisses, leurs peurs, leurs vanités, leurs bêtises. » Ils l'ont condamné avec la même rigueur scientifique qu'ont condamné jadis les sorcières. C'est dit et c'est bien dit.
Ah oui, il faut lire cette tribune dans le Figaro de Patrice Jean. Elle est, comme on dit souvent, jubilatoire. Et pendant ce temps, il est des pays où les écrivains risquent vraiment leur peau et dont on parle peu. C'est le cas de la Biélorussie et c'est à lire dans Courrier International.
Entretien bouleversant à lire sur le site de l'hebdomadaire, la romancière Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, s'est confiée au journal allemand Die Zeit. Elle vit à Berlin pour fuir la dictature du président biélorusse Loukachenko. « Je voudrais rentrer », dit-elle, « mais il n'y a aucun endroit où je puisse rentrer. Le régime s'apprête à confisquer son appartement. Mes journaux personnels sont là-bas, tous mes manuscrits. Un de mes amis a juste réussi à récupérer la médaille du prix Nobel. Mon monde s'est constitué au fil des années et je parle de choses qui ont une valeur symbolique. Et voilà que ces animaux, je ne peux pas les appeler autrement, débarquent et détruisent ce monde. »
La dictature biélorusse déloge, au sens propre, tous les opposants et tous les intellectuels.
Chez nous, dit Svetlana Alexievitch, le logement est une sorte de tranchée. Les gens s'y terrent pour se sentir protégés. Il y a quelque temps, ils ont tout cassé dans l'appartement d'un scientifique. Ils ont déversé un camion d'ordures à l'intérieur et ont publié les photos. Difficile d'imaginer ce qu'une personne ressent quand elle voit ce qu'on a fait à son monde. La peur est telle que, même en exil, ses compatriotes qu'elle rencontre lui parlent en chuchotant. Depuis les manifestations de 2020 contre le régime, 30 000 personnes ont été arrêtées en Biélorussie. « Ce qui m'importe, dit Svetlana Alexievitch, c'est de savoir ce qu'est devenu l'homme et pourquoi le vernis culturel s'écaille si facilement. Il est très mince et la bestialité rôde en dessous. » Cet entretien est à lire sur le site de Courrier International et à transmettre aux pétitionnaires anti-Tesson de Libération.
Nous en reparlerons de cette pétition avec nos esprits libres, Hervé Gattegno. Ce sera dans 4 minutes à peine. Je vous dis à demain.
À demain.
Pour la revue de presse. Radio Classique.